Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La pluie, les crues, le vent, les dégâts sont déjà nombreux. Ce matin dans l'ouest du pays, balayé par la tempête Nils, 850 000 foyers sont privés d'électricité. Nous serons en direct de Narbonne dès le début de ce journal. L'eau ou des rafales à plus de 150 km/h ont été enregistrées. C'est dans 5 mois que Marine Le Pen connaîtra son sort et savoir si elle pourra se présenter à la présidentielle. Enfin l'or, l'argent et le bronze. Journée prolifique des Français aux Jeux de Milan. Cortina conclu par le sacre olympique du couple Cizeron, Fournier-Baudry en patinage.
Ça souffle fort ce matin sur une très large partie du pays.
850 000 foyers de l'Ouest sont ce matin privés d'électricité. 4 départements sont en vigilance rouge, 2 pour les crues, le Lot-et-Garonne et la Gironde, où les cours d'eau menacent ce matin. C'est la conséquence de la tempête Nils. Il y a du vent aussi. L'Aude a été placée en vigilance rouge. Anna Jojard, vous êtes à Narbonne ce matin en direct pour RMC, une ville balayée par les vents violents.
Oui, le vent vient se mêler à la pluie. Hein. Ces rafales de vent sont vraiment très puissantes. Elles s'engouffrent dans les rues, dans les arbres. Beaucoup de branches tombent au sol. On peut voir aussi des poubelles au milieu de la rue. On m'indique que des interventions sont en cours pour dégager les routes. Le gros de l'épisode est attendu jusqu'en milieu de matinée. Pour l'instant, la circulation des trains est maintenue, mais des retards sont à prévoir. En revanche, il n'y aura pas d'école aujourd'hui dans le département. Mesure de prévention prise par la préfecture hier, qui a aussi décidé de la fermeture de tous les massifs forestiers, parcs et jardins. Et interdit la tenue d'événements en extérieur. La préfecture qui a diffusé hier soir un message FR Alert pour demander à tous ceux qui le peuvent de rester à l'intérieur des bâtiments en dur, fermer les portes, les volets et les fenêtres et limiter, voire éviter les déplacements en extérieur.
Une tempête qui entraînera aussi de fortes chutes de neige sur les massifs dans les Alpes. Attention au risque d'avalanche élevé dans plusieurs départements. Ce sera le cas notamment en Savoie, placé en vigilance rouge. Risque élevé également en Savoie, en Isère, dans les Hautes-Alpes, où la vigilance orange est activée avec des conséquences très concrètes dans plusieurs stations de ski fermées. Totalement ou partiellement, ce jeudi, ce sera notamment le cas du côté de la Plagne. Une date maintenant, le 7 juillet prochain, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Le procès s'est clos hier par les plaidoiries des avocats de Marine Le Pen. En réponse aux 4 ans de prison, dont un ferme et 5 ans d'inéligibilité requis par le parquet, ils ont plaidé la relaxe. La patronne des députés RN devra donc encore patienter, Sonia Gobry, avant d'être fixée sur son sort et son avenir politique.
Derrière un sourire de façade, cette phrase « Plus c'était tôt, mieux je me portais ». Marine Le Pen aurait préféré en finir vite, ce calendrier ne l'arrange pas. 5 mois à attendre avant de savoir si elle pourra lancer sa campagne présidentielle. 5 mois avant la clarification, sera-t-elle la candidate du Rassemblement National ou passera-t-elle la main à Jordan Bardella ? Ce délai, on fera avec, dit-elle, malgré cette chape de plomb au-dessus de la tête. Marine Le Pen assure qu'elle comprend les juges. C'est une cour d'appel qui n'a pas le droit à l'erreur, mais elle se fait peu d'illusions sur une relaxe et espère plutôt une peine d'inéligibilité réduite au maximum, moins de 2 ans pour pouvoir se présenter en 2027. Alors au procès, son avocat a conclu sa plaidoirie par ces mots « Ma cliente vous confie l'ouvrage de sa vie ».
Un jeune homme de 19 ans placé en garde à vue pour atteinte aux intérêts de la nation. Il est soupçonné d'espionnage dans l'une des usines du groupe Dassault à Cergy dans le Val d'Oise, surpris Alfred Orange, en train de filmer sur ce site sensible du constructeur aéronautique.
C'est le comportement suspect de cet intérimaire monteur câbleur sur la chaîne d'assemblage du Rafale qui a alerté le service de sécurité de Dassault. Ce jeune de 19 ans a été surpris avec des lunettes filmantes, un âge et un statut qui peuvent présenter plusieurs avantages en matière d'espionnage, analyse Nicolas Moinet, professeur en intelligence économique à l'université de Poitiers.
Le principal atout de l'intérimaire, c'est qu'il n'a pas d'attachement à l'entreprise, il n'est pas bien connu et puis surtout c'est une personne jeune qui n'a pas encore eu le temps d'avoir un parcours qui permette de savoir s'il est une source de risque ou pas pour l'entreprise.
Que le Rafale puisse attiser les convoitises, ça n'a rien de surprenant pour cet expert.
C'est un des meilleurs avions de combat au monde. Il y a une expertise et une ingénierie chez Dassault qui est quand même assez extraordinaire. Puis ça peut vous donner beaucoup d'informations et donc vous faire gagner du temps dans une logique de rattrapage technologique, sachant que le Rafale est très en avance sur beaucoup de ses compétiteurs.
Une tentative qui pourrait, d'après ce spécialiste, avoir aussi bien été organisé par une puissance étrangère hostile que par un pays allié de la France.
Six suspects, dont un mineur mis en examen hier à Paris, soupçonné d'être impliqué dans le rapt et la séquestration d'une magistrate de Grenoble et de sa mère la semaine dernière dans cette affaire en lien avec une demande de rançon sur fond de crypto-monnaie. On en vient à ce rappel massif. Des centaines de milliers de voitures BMW dans le monde, plus de 4000 sont concernées en France, conséquence d'un risque d'incendie sur les moteurs de ces véhicules construits entre 2020 et 2022. Mehdi Benassia a failli quitter l'OM, affecté par le départ de Roberto De Zerbi. Le directeur du football a proposé sa démission, refusée par la direction du club. Marseille toujours à la recherche d'un entraîneur et un nom semble se détacher ce matin, Florent Germain, pour succéder à l'Italien.
Oui, l'OM est déjà entré en contact avec Habib Bey. Ironie de l'histoire, l'ancien défenseur olympien de l'époque, Didier Drogba, vient d'être remercié par le Stade Rennais, mais il rêve déjà de rebondir à l'OM et coche surtout plusieurs cases. Bey ne craint pas la ferveur et le contexte marseillais. Il connaît bien la Ligue 1 et pourrait accepter une mission courte durée avec une prolongation de contrat si l'objectif du podium est atteint. D'autres noms sont évoqués. Le portugais Sergio Conceição, ex-entraîneur du FC Nantes. Eric Schell, l'actuel sélectionneur du Nigeria. Ou même Igor Tudor, l'ancien coach croate de l'OM. Marseille veut se décider d'ici à la semaine prochaine, mais pour le moment, Habib Bey semble tenir la corde. Les négociations se sont intensifiées ces dernières heures.
Et puis on prend maintenant la direction de l'Italie avec des Français en très grande forme.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Avec 4 médailles en une seule et même journée aux Jeux Olympiques d'hiver, marquée par le sacre du couple de patineurs Cizeron, Fournier, Baudry, étincelant hier soir sur le programme en danse libre, Arnaud Valadon.
De la patrie, un jour de gloire est arrivé, mais c'est arrivé.
Avec sa médaille d'or autour du cou, Laurence Fournier-Baudry avait du mal à réaliser.
Je crois qu'il y a tellement de beaux moments, c'est difficile de les dissocier. Finir avec la médaille d'or, on ne pourrait pas demander mieux. C'est vraiment quelque chose de surréel.
Cizeron est désormais triple médaillé olympique, 2 en or, 1 en argent. Lui aussi peine à se rendre compte de la performance. Leur duo n'a qu'un an de vécu.
C'est assez vertigineux de regarder en arrière et de voir le chemin qu'on a accompli. C'était seulement un rêve il y a un an. On a eu énormément de soutien, énormément d'amour, énormément d'obstacles aussi, ce qui rend la victoire d'autant plus savoureuse.
Leur entraîneur Romain Gennauer souhaite les voir dans 4 ans en France.
Ce serait bien qu'ils continuent jusqu'aux Jeux Olympiques de Nice et je crois que ça a été le moteur aussi quand il avait assisté aux Jeux de Paris de vivre en tant que spectateur des Jeux en France. Je pense que ça lui a donné envie.
Les deux danseurs ne veulent pour l'instant pas encore se projeter.
Et de l'or aussi pour Julia Simon sur le 15 km en biathlon devant sa compatriote Lou Jean Monod. Périne Lafont décroche le bronze en ski de bosse. À suivre aujourd'hui le Super G féminin ou encore des snowboards cross avec des chances de médailles. Et puis une triste nouvelle pour les fans de la série Dawson. James Van Der Beek est mort à l'âge de 48 ans. L'acteur père de 6 enfants souffrait d'un cancer, figure emblématique du petit écran. Il était le héros de cette série Dawson qui a marqué toute une génération dans les années 90, racontant le quotidien de jeunes adolescents dans cette petite ville de Capside.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC. On part au 32-16 parce que ça souffle sur une bonne partie ouest de la France. Damien nous appelle du Gers, vous êtes à Auch. Bonjour Damien.
Bonjour Pauline, comment ça va?
Damien, comment ça va? Vous êtes dans un département qui est en vigilance orange. Ça souffle ce matin?
Ah bah là, ça souffle énormément. Je viens d'arriver sur mon lieu de travail. Là. Il y a les tuiles qui sont envolées. Ben, il souffle. Je ne sais pas si je vais pas vous faire entendre. Je sais pas.
Vous travaillez où?
Alors moi, je travaille une petite commune à côté de Auch, à Gimont exactement.
D'accord.
Il y a une trentaine de kilomètres de Auch. Et là, c'est là tout le long de la route, vous avez des arbres, enfin des branches cassées. Nous déjà, dans le Gers, ça fait à peu près 5-6 jours qu'il pleut abondamment. Tous les champs sont inondés, ils sont pleins d'eau. Mais là, c'est...
Donc il y avait l'eau et maintenant il y a le vent. Soyez quand même très prudents, vous disiez
même
des...
Il n'a jamais soufflé aussi fort, hein, le vent à Auch. On a battu un record, tout mois confondu, avec une des rafales à 120 km par heure.
Vous faites bien attention, hein, Damien, vous avez croisé des gens un peu sur la route?
Ah bah, oui, un peu comme tous les matins, parce que comme je commence assez tôt, donc on croise toujours quelques voitures. Mais en plus, nous, on a la chance d'avoir une voie rapide sur une trentaine de kilomètres, donc ça roule à peu près bien. Mais sur les petites routes, là, quand je suis arrivé sur les petites routes, il y a eu des routes qui étaient barrées déjà, vous voyez, des branches d'arbres partout, enfin des poubelles dans tous les sens. là, dans la cour de l'entreprise, oui. Il y a des poules qui sont volées, il y a des cuisses cassées par terre. Enfin, c'est la catastrophe.
Ah oui, là, à ce point, c'est fou. Et effectivement, ah oui. Je vous redonne cette information qui vient de tomber. 850 000 foyers sont privés d'électricité sur une partie du pays. Merci beaucoup, Damien, d'avoir témoigné. Soyez hyper prudents. Damien, donc, qui nous appelle de Auch, et vos témoignages tout au long de cette matinale, nos informations les plus précises possibles. Et au moment où l'on se parle, ce sont donc 4 départements en rouge. Hein.
Oui, exactement. Alors, pour le vent, c'est l'Aude qui est en vigilance rouge, puisque c'est là maintenant qu'on va avoir les rafales les plus fortes. On a également Gironde et Lot-et-Garonne en vigilance rouge pour les crues. Et la Savoie pour le risque maximal d'avalanche.
Et je précise que Julie vient de nous mettre un message sur le WhatsApp. Elle dit bonjour. Dans les Landes, mon mari pompier est parti en intervention dès 3h30 ce matin. Un arbre est tombé sur notre maison et une voiture vers 2h. Très dangereux, évidemment. Elle dit, moi, femme de pompier, je m'inquiète. Évidemment, on s'inquiète aussi pour eux. Courage à tous et courage effectivement à tous nos pompiers partout. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il faut réduire la consommation de viande et aller vers une évolution progressive vers des régimes alimentaires conformes aux repères du programme national nutrition santé. Qui dit ça? Le gouvernement qui désormais nous dit qu'il faut manger moins de viande. Est-ce que le gouvernement doit s'en mêler de nos assiettes? Véronique Langlais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artisan bouchère, vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris. Vous estimez-vous qu'on stigmatise encore une fois les métiers de la viande? C'est votre parti pris. Dans un instant, on y reviendra. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Limiter notre consommation de viande et de charcuterie, c'est le gouvernement qui nous le demande. Il a publié sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Un document qui était dans les tiroirs depuis 2 ans et qui ne satisfait au final personne. Parce qu'il y a un peu de ci, un peu de ça, les ONG sont pas contentes et les bouchers non plus. Bonjour Véronique Langlais.
Bonjour.
Vous êtes artisan bouchère, vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris. Votre parti pris ce matin, c'est qu'on stigmatise encore une fois les bouchers.
Alors c'est qu'on stigmatise les bouchers évidemment, mais quand vous parlez de préconisation par rapport à l'État, oui, l'État doit se mêler de nos assiettes et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est comment nourrir nos concitoyens, les enfants aussi. Quand on voit le taux d'obésité qui augmente de façon monumentale chez les enfants, on peut se poser la question aujourd'hui. Alors, la stigmatisation de la viande, on peut s'interroger pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on mange de moins en moins de viande. Je rappelle que...
Donc, en fait, c'est culpabiliser des gens qui ont déjà réduit leur consommation, c'est ça,
oui,
que vous voulez dire ?
Alors déjà, depuis une dizaine d'années, le déclin s'était opéré, mais là... De plus en plus, on a d'ailleurs eu une grosse tension du marché parce qu'il y a une grosse décapitalisation bovine en France. On est à 1200 bovins en moins sur le cheptel national. Donc ça tend le marché, ça augmente le prix de la viande aussi. Aujourd'hui, sur la volaille, on est à 50% d'importation. Donc on n'a pas assez de producteurs de volaille. Sur le bovin, on mange de moins en moins de viande rouge parce que c'est quand même un produit qui est assez cher, qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Et le sujet, c'est plutôt de consommer de la viande française. Et c'est ça qui devrait...
Alors, cela dit, c'est ce que dit le gouvernement.
Ben
pour
oui.
être tout à fait honnête, la phrase complète, c'est qu'il demande à ce que l'on réduise la consommation de viande importée. Effectivement, le problème, c'est que dans ce cas, faut en produire plus.
Non, et puis le souci, c'est aussi que le consommateur ne sait pas forcément qu'il mange dans certains produits, notamment dans les hôpitaux, dans les écoles. On n'a pas toujours accès à l'information. Et puis, on est très engagé quand on va acheter son produit, mais c'est plus difficile quand on est finalement dépendant d'une tierce personne.
Et de la question du produit à la fois transformé, effectivement, dans des plats déjà cuisinés ou effectivement dans la restauration collective, par exemple. Je voudrais donner la parole aussi à Florent qui nous appelle au 3216. Florent qui est boulanger à Montpellier. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous en consommez encore de la viande ou pas ?
Oui, mais j'ai forcément réduit d'ailleurs à cause de vous, parce que à force de vous écouter et de nous dire qu'il fallait réduire. Du coup, c'était un peu avant le Covid que j'avais commencé à réduire. Ah. J'ai divisé à peu près par deux. J'ai augmenté mes doses de légumes, tout simplement, qu'on faisait avec.
D'accord.
Pour compenser.
Vous sentez bien physiquement?
Oh, ça reste quand même 1 kg, 1,5 kg par mois, ce qui est quand D'accord. même largement suffisant, je pense. Ouais.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas stoppé. Vous avez une consommation
qui est dans... car la plupart de mes cuisines restent quand même des plats à base de viande, mais par contre, je pouvais facilement diviser par deux les deux quantités. Il n'y avait rien qui m'obligeait à manger autant. Et bon, je me suis bien rendu compte que ça n'impactait en aucun cas. Par contre, effectivement, maintenant, je consomme uniquement de la viande française. Ça coûte un peu plus cher, mais vu que je suis tout seul, moi, ça ne fait pas grand-chose sur mon budget à la fin. L'avantage d'être célibataire. Ouais. Et comme elle disait, justement, le problème, ça va être dans tout ce qui est restauration, de manière générale, car trouvez-moi un seul restaurateur qui fasse de la viande française, ça reste quand même...
Ça, vous en parlez avec vos copains. Vous êtes boulanger. Oui. J'imagine que vous faites peut-être des jambons beurre, que vous faites des quiches. Qu'est-ce que vous mettez dedans, justement, comme produit? Est-ce que vous arrivez à choisir des produits de qualité et français?
Alors moi je reste employé, mais je sais que le jambon il est français. Par contre tout ce qui est poulet, une bonne partie des viandes qui font dans les sandwichs, elle est étrangère.
Ouais, enfin,
ça coûte deux fois moins cher au kilo et que réduction de
Florent, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler aussi du prix, parce qu'on vient de parler de la question de la planète, on vient de parler de la question du régime et de la santé, mais il y a aussi une question en réalité, et qui est presque la première désormais dans le choix de consommer ou pas de la viande, c'est le prix.
Alors c'est le prix, mais c'est aussi savoir cuisiner. Aujourd'hui, c'est le sujet principal. Et quand vous parlez de la façon de l'État de se mêler de ça, je pense qu'on devrait envisager un programme scolaire qui apprend aux enfants comment cuisiner des produits de saison de façon raisonnable, et également de respecter les saisons et la proximité. Évidemment que ça coûte cher, parce que aujourd'hui on a quand même la première part du budget qui est le logement, on a les assurances, on a les téléphones portables et l'alimentation qui était il y a encore 40 ans 30% du budget des foyers est devenue 12%. Donc effectivement que c'est quelque
Donc
chose
trouver le juste équilibre au fond dans notre alimentation, et d'ailleurs avoir une alimentation variée, c'est aussi ça quand
Bien
même
sûr.
La clé. Merci beaucoup d'être venu réagir ce matin, Véronique Langlais, et merci aussi à Florent. Cette information qui nous parvient à l'instant, il est 7h20 sur RMC et on apprend qu'un chauffeur poids lourd a été tué par une chute de branche près de Dax dans les Landes. Soyez extrêmement prudents, et cette information évidemment, on y revient dès le journal de 7h30 avec un point complet sur la situation à la fois sur les routes et effectivement avec ces inondations, ces foyers privés d'électricité. Ils sont 850 000 foyers d'électricité au moment où l'on se parle. Toutes les informations dans un instant. Mais d'abord, ça va être l'histoire avec Arthur Chevalier, qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Demain, c'est un événement. La spationaute française Sophie Adnaud va décoller pour la Station Spatiale Internationale.
Oui, et ce matin, je vous raconte l'incroyable histoire de la toute première femme dans l'espace. Elle était russe, communiste et surtout ouvrière dans une usine de coton.
Vous nous le racontez dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes exactement. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Et 7h21, et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, demain, la spationaute française de 43 ans, Sophie Adnaud, va s'envoler pour la Station Spatiale Internationale, et c'est une mission qui va durer 9 mois.
Oui, Sophie Adnaud s'envolera à bord d'un véhicule fabriqué par SpaceX depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Le trajet jusqu'à la Station Spatiale Internationale va durer 34 heures. Et c'est aussi un événement pour nous, puisque Sophie Adnaud, c'est la deuxième Française à aller dans l'espace. La première, c'était Claudie Aigneret, et c'était en 1996, il y a donc 30 ans.
Les femmes, elles sont nettement moins nombreuses que les hommes à avoir été dans l'espace. Hein.
Ah ben, on est très loin de la parité, Apolline. 83 femmes dans l'espace contre 560 hommes. Et ce matin, j'aimerais justement vous raconter l'histoire invraisemblable de la toute première femme à avoir été dans l'espace. C'était une Russe, elle s'appelait Valentina Tereshkova. Nous sommes dans les années 1960 et voilà le contexte. L'URSS vient d'envoyer le premier homme dans l'espace, c'était Yuri Gagarin. Mais le régime soviétique veut faire mieux en envoyant aussi la première femme. Donc il lance un programme de recrutement à l'échelle de tout le pays.
Beaucoup de femmes ont postulé ?
400 et seulement 5 ont été retenues avec des critères drastiques. Il fallait être parachutiste, avoir moins de 30 ans, faire moins d'1m70 et moins de 70 kilos. Ça c'était pour rentrer dans la capsule. Et c'est donc Valentina Tereshkova qui est retenue. Ce qu'elle avait en plus des autres, c'était aussi ses origines. Une mère ouvrière, un père mort pendant la Seconde Guerre mondiale. En URSS, il fallait évidemment exalter le patriotisme et les prolétaires, ça tombe bien. Elle est elle-même ouvrière dans une usine de coton, membre du Parti communiste. Bref, c'était le profil parfait.
Et donc, elle va décoller pour l'espace.
Et oui, le 16 juin 1963, elle décolle depuis le Kazakhstan dans un vaisseau qui s'appelait le Vostok 6. À bord de ce vaisseau, elle va effectuer 48 tours autour de la Terre en 70 heures. Et ça a failli virer à la catastrophe, hein, puisque son pilote automatique s'est cassé. Elle a dû réparer son vaisseau depuis l'espace. Finalement, plus de peur que le mal, puisqu'elle revient sur Terre. Et elle devient donc officiellement, à 26 ans, la première femme dans l'espace. Un énorme coup de pub pour une Russie en concurrence avec les États-Unis, hein, dans la guerre spatiale. Les États-Unis, eux, n'enverront leur première femme dans l'espace qu'en 1983, c'est-à-dire 20 ans plus tard.
Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Eh bien, c'est devenu une icône de l'URSS. D'ailleurs, en Russie, il y a beaucoup de statues d'elle. Dans les années 70, elle occupera des très hautes fonctions dans l'armée, au sein du Parti communiste. Mais elle va aussi avoir une carrière politique. Après la chute de l'URSS, en 2011, à 74 ans, elle devient députée à la Douma, l'Assemblée russe, sous la bannière du parti de Vladimir Poutine. Un Poutine dont elle est une admiratrice, hein, en 2020. C'est même une des premières députées à soutenir une réforme de la Constitution qui autorisait Poutine à se représenter pour deux mandats. Voilà. Aujourd'hui, elle a 88 ans. Elle est toujours députée et elle est toujours aussi pro-Poutine.
C'est incroyable cette histoire. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et d'ailleurs, vous pouvez à tout moment réécouter la chronique d'Arthur. Ça se passe sur l'application ou le site rmc.fr. À 8h30, notez-le, le face-à-face, ce sera Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique, le patron des magasins Leclerc. Dans un instant, Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Et bonjour Arnaud, vous êtes revenu.
Et oui.
Les Belges vous ont laissé sortir.
Je vous ai ramené le beau temps.
Oui. Voilà.
Et donc ce matin, vous recevez Michel-Édouard Leclerc. Le glorieux Michel-Édouard Leclerc. Vous avez vu, il est à la première place du classement des personnalités préférées des Français. Dans ton cul, Jean-Jacques Goldman. 25 ans que tu squattes parce que t'as écrit encore un matin. En 80, moi j'étais même pas né. Et ben voilà, Michel-Édouard, il te passe devant. En faisant quoi? En vendant le pack de 12 Danettes vanille à 3,25€ plus 2€ de ticket Leclerc en bon d'achat. Combien? Oui, 12 Danettes vanille à 3,25€ plus 2€ de ticket Leclerc en bon d'achat. Offre soumise à condition, voire condition. Pour votre santé, bougez plus. Alors, plus dans l'oreillette, personnalité politique préférée des Français. Et Goldman ne fait pas de politique, certes, mais ça reste une performance. Alors, les deux personnalités qui ont le plus fort taux de mauvaise opinion, vous savez qui c'est ? Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Alors Macron parce que c'est le président, Mélenchon parce que les Français n'aiment pas les Maghrébins. Bref, oui, ils se revendiquent maghrébins maintenant. Bref, pour la présidentielle, Michel-Édouard est en tête du sondage IFOP et Mélenchon est en tête du sondage IFOPA. En plus, 58% des Français pensent qu'un patron ferait un bon président de la République. Alors, un banquier d'affaires, on avait essayé avec Macron. Bof, on va dire bof. Bon. Hollande était à la Cour des comptes, il savait pas trop compter. Sarkozy était avocat, il a fini en taule. Un patron, pourquoi pas? Enfin, ça peut se terminer avec la fermeture de la boutique, partie comme ça. Alors des journalistes lui ont demandé s'il ferait un bon président, et il a répondu, Michel-Édouard Leclerc, je suis pas plus con qu'un autre.
Oui, j'ai vu cette réponse.
Alors bon, si on change, c'est pas pour avoir un nouveau con, en fait. On est équipé en termes de con. Non, mais c'est curieux comme méthode de drague. Imaginez, Apolline, vous êtes en boîte. Salut, t'es célibataire ? On va dire que oui. Oui, je suis célib. Eh ben, t'as de la chance, poupée. Tu vas voir, je suis pas plus con qu'un autre. Vous y allez pas.
Ah, oh bah là, j'y vais, je vais.
En galopant, en galopant. Michel-Édouard, qui est sur la liste Epstein, hein. Enfin, non, juste sur une liste de courses de Epstein, qui était là. Alors, ma liste de courses 50 litres d'huile de massage, 12 boîtes de préservatifs, des bâches pour la moquette, des raquettes de ping-pong, des chaînes, des bonbons, des DVD de la Pat Patrouille.
Le papa de la petite Lola est attendu en caisse centrale.
Ah putain, ma nana s'est perdue, faut que j'y aille. Allez, rendez-vous avec Michel-Édouard Leclerc à 8h30, le glorieux Michel-Édouard. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours à 7h20 et à 8h20.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Et on l'apprend à l'instant, un chauffeur poids lourd a été tué après une chute de branche sur la route près de Dax. Dax, effectivement, est de très très nombreux dégâts, intempéries, 4 départements en vigilance rouge, une trentaine en vigilance orange. Ça souffle absolument partout et il y a 850 000 foyers qui sont privés d'électricité. Le point complet, évidemment, la météo et le journal dans un instant. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La tempête Nils a déjà fait un mort dans les Landes, un chauffeur poids lourd tué par une chute d'arbre près de Dax. Des armes non déclarées retrouvées chez le septuagénaire accusé d'avoir abattu son présumé cambrioleur près de Lyon. L'homme qui plaide la légitime défense a été mis en examen pour meurtre. Et puis la razzia des Bleus en biathlon au jeu d'hiver de Milan-Cortina. La France compte 7 médailles ce matin, dont plus de la moitié ramenées par les athlètes du biathlon.
Et on constate donc ce matin les premières conséquences de la tempête Nils.
Avec ce drame dans les Landes où un chauffeur de poids lourd a été tué après une chute d'arbre près de Dax et déjà 850 000 foyers privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, qui comptent donc 3 des 4 départements en alerte rouge ce matin. La Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, l'Aude pour les vents violents. Ça a soufflé d'ailleurs très fort cette nuit dans les Landes. 162 km/h enregistrés à Biscarrosse, 136 à Mont-de-Marsan. C'est là que doit se rendre Alex qui a composé le 32-16 ce matin avant d'être bloqué par de violentes chutes d'arbres.
Je me suis levé avec, il y avait toutes les trottinettes et les vélos en libre-service qui étaient au milieu de la route. Énormément de poubelles renversées. Première sortie pour rejoindre le dépôt, il y avait un arbre en travers de la sortie. Sur la 63, j'ai failli me prendre une vingtaine d'arbres qui coupaient la moitié de la route. Et là, a priori, la route est complètement bloquée. Il y a une vingtaine de poids lourds devant moi, une dizaine de poids lourds derrière moi. Les pompiers, a priori, sont en action. Moi, je n'ai pas de visu sur eux. Quasiment une heure que je suis bloqué. Il y a des bourrasques devant. Certes, le camion ne va pas se retourner, mais il bouge énormément. C'est violent, hein. En 23 ans de conduite, j'en ai rarement eu des comme ça.
Quatrième département en alerte rouge ce matin, la Savoie, pour le risque d'avalanche. Plusieurs stations ont d'ailleurs fait le choix de fermer tout ou partie des pistes aujourd'hui. Une trentaine d'autres départements sont en alerte orange. Il est 7h32 sur RMC et c'est donc le 7 juillet prochain que Marine Le Pen saura si oui ou non elle peut se présenter à la présidentielle de 2027. C'est la date qu'a choisi la Cour d'appel de Paris pour rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Une autre affaire qui a relancé cette semaine, le débat sur la légitime défense. On vous en parlait sur RMC. À Genas, dans la banlieue de Lyon, la mort d'un jeune de 19 ans abattu par un septuagénaire qu'il soupçonnait de vouloir cambrioler sa maison. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Et hier, le propriétaire a été mis en examen pour meurtre, Vincent Chevalier.
Oui, à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé l'arme utilisée la nuit des faits, mais aussi 3 autres armes, toutes détenues sans autorisation. Le septuagénaire a pu rentrer chez lui, placé sous contrôle judiciaire. Un soulagement pour son avocate Marine Régnier.
C'est un cas d'école de légitime défense et je vais me battre aujourd'hui pour que mon client, qui est un homme sans histoire, qui est inconnu des services de police, qui est un commerçant honnête, qui est un travailleur, père de famille, soit reconnu comme victime dans son statut dans le cadre de cette procédure.
Lors de ses auditions, le propriétaire dit avoir tiré pour faire fuir un individu armé qui avait accédé au comble de son habitation et qui l'avait menacé verbalement. Le cambrioleur présumé a été retrouvé mort sur le toit, ainsi qu'un revolver dont l'appartenance n'a pas été précisée par le parquet. Une enquête a aussi été ouverte pour vol avec arme.
7h34, exit les services publics et autres grandes entreprises. Les pirates informatiques s'en prennent désormais au garage automobile. Pas pour récupérer les données de leurs clients, mais pour utiliser à leur place la plateforme d'immatriculation des véhicules. L'idée, c'est de créer des cartes grises pour les revendre ensuite sur Internet. Selon la Fédération nationale de l'automobile, 170 garages ont été victimes de ces hackers. Martin Lange a rencontré l'un d'eux pour RMC.
Dimanche dernier, Philippe, garagiste à Ouistreham, regarde ses comptes sur l'application de sa banque et découvre
un prélèvement de 599 455 euros.
Une somme qui correspond à la redevance qu'il doit reverser à l'État pour l'immatriculation de milliers de véhicules dont il n'a jamais vu la couleur. L'équivalent de 198 ans de travail, selon ce garagiste, effectué par des hackers avec ses codes d'accès à la plateforme d'immatriculation.
C'est un identifiant à 4 chiffres. Pour des hackers, c'est de la rigolade.
Philippe a immédiatement fait opposition, mais la dette reste due au trésor public.
Devoir payer des centaines de milliers d'euros, on ne peut pas se relever de choses comme ça. Là, se faire prendre ce qu'on a bâti au fil des années, ça me resterait un petit peu en travers quand même.
Certaines cartes grises piratées seraient vendues sur les réseaux sociaux, selon la Fédération nationale de l'automobile. Son vice-président Bruno Choix réclame l'annulation de la dette de ses 170 garages.
Le plus petit s'est fait pirater 78 000 euros. Le plus gros, il doit être à 947 000 euros de cartes grises effectuées. Aujourd'hui, ça représente plus de 4 millions d'euros de taxes détournées. C'est exorbitant.
La fédération qui réclame également un meilleur contrôle. Il n'est pas normal qu'un garage qui fait habituellement 5 ou 6 immatriculations dans le mois puisse en faire 1000 en un week-end et que personne ne réagisse.
Il est 7h35 sur RMC et ils l'ont fait.
RMC. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Le duo de patineurs Cizeron-Fournier-Baudry a offert à la France sa troisième médaille d'or hier soir aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina, et ce après seulement un an de travail ensemble, une prouesse. La France qui peut aussi compter sur ses athlètes du biathlon, dont la moisson a encore été exceptionnelle hier avec ce doublé sur l'individuel 15 km femmes. Julia Simon, championne olympique, sacrée championne olympique devant sa coéquipière Lou Jean Monod. De quoi en faire taire plus d'un, Julien Richard.
Où elle franchit la ligne d'arrivée, le doigt sur la bouche, regard vers la tribune de presse et face au premier micro qui se dresse devant elle, celui d'Eurosport.
Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix, parce que j'ai encore lu des choses hier soir qui font pas plaisir.
Julia Simon, lassée qu'on lui rabâche l'affaire, sa condamnation en octobre dernier pour vol et fraude à la carte bancaire, dont la victime est sa coéquipière Justine Brezaz-Boucher, sa suspension d'un mois, son retour pas simple dans le groupe France, alors ce titre olympique.
Ça représente en fait une revanche un petit peu sur tout et une grande fierté. Je me sens au rendez-vous et ça fait énormément de bien.
Hier, elle a une nouvelle fois fait la démonstration de son impressionnante force mentale.
Julia Simon !
Elle est faite d'un bois qui n'existe pas.
Son entraîneur du tir, Jean-Paul Giacchino.
Mentalement, émotionnellement, psychologiquement, elle est à part. C'est cette force qu'elle a, cette force intérieure. Je vais vous montrer que je suis la meilleure. C'est un mastodonte, c'est une guerrière, quoi. C'est une guerrière.
À 29 ans, la biathlète 10 fois championne du monde vient décrocher le seul titre qui manquait à son palmarès.
J'ai fait le tour en fait, aujourd'hui j'ai tout gagné, ça vient valider une belle carrière.
Une carrière loin d'être terminée comme sa quinzaine olympique avec encore 4 courses au programme en Italie.
Et la France pourrait à nouveau briller aujourd'hui en snowboard cross. Début des épreuves à 9h55 à vivre évidemment sur RMC, radio officielle des Jeux.
Et puis le Quintet Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici notre pronostic du jour. Le favori, c'est le numéro 12, Indigo de Fontaine. L'outsider, c'est le 5, Icar du Béryl.
C'était le journal d'Élise d'Angean. Il est 7h37 sur RMC. Et on va partir effectivement au standard aussi pour écouter tous vos messages dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, de très nombreux messages, notamment sur le WhatsApp RMC 0612 424 424 sur la situation sur le terrain avec la tempête Nils.
C'est la solidarité des auditeurs d'RMC qui jouent à plein ce matin et vous nous signalez ce que vous pouvez voir près de chez vous, que ce soit l'eau qui monte, le vent qui souffle. Et Célia nous écrit, beaucoup de vent ici à Champigny sur Yonne, à côté de Montreux. Un arbre est tombé sur la voie de train depuis 5h30, deux trains annulés et pas de remplacement. Voilà ce qu'écrit Célia ce matin sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Cette information aussi qu'on vous a donné il y a quelques minutes, la mort d'un conducteur poids lourd après la chute d'un arbre près de Dax. Et Fred nous écrit mes condoléances à la famille pour le décès du conducteur poids lourd aux abords de Dax en raison de la tempête. J'étais conducteur routier pendant 5 ans. J'ai été frappé par les boîtes de transport qui laissaient rouler leur flotte, quelles que soient les conditions climatiques. Voilà ce que dit Fred ce matin sur le WhatsApp RMC. Vous continuez à nous signaler ce que vous pouvez voir près de chez vous, la situation météo, que vous soyez dans un département en vigilance rouge ou orange, et vous serez en direct avec nous 3216 et le WhatsApp RMC le 06 12 424 424.
Et justement, on en parle dans un instant parce que la tempête Nils, elle est désormais complète. Il y a le vent, les crues, les avalanches. Ça ressemble un peu au Dipley d'Égypte. On a vraiment l'impression qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est toute une partie ouest. On reviendra dans les détails qui est aujourd'hui sous l'eau et dans le vent. Il y a vos témoignages. Laurent sera avec nous dans un instant, qui nous appelle de Narbonne. Il est artisan maçon. Il dit que ça souffle énormément. Gaël Musquet est avec nous dans ce studio. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Vous êtes météorologue spécialisé en prévention des risques majeurs. Est-ce que c'est un phénomène hors norme ou est-ce que c'est le nouveau normal en quelque sorte? Vous nous répondrez dans une minute. Géraldine Demory est évidemment aussi avec nous pour faire un point complet sur la situation en temps réel. 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, il est 7h41 et vous êtes bien sûr RMC, c'est la tempête. Tempête Nils qui balaye une bonne partie du pays depuis cette nuit. Bonjour Gaël Musquet.
Bonjour.
Vous êtes météorologue spécialisé en prévention des risques majeurs. Cette tempête, c'est vigilance. Géraldine Demory est évidemment aussi avec nous. Un point à nouveau sur le nombre de départements en vigilance rouge et en vigilance orange.
Alors on a 4 départements qui sont en vigilance rouge. Pour le vent, ça concerne l'Aude. Pour les crues, la Gironde et le Lot-et-Garonne, pour la crue de la Garonne. Et puis également la vigilance rouge sur la Savoie pour les avalanches. Puis on a 35 départements en vigilance orange. Et le vent, ça concerne notamment les côtes d'Aquitaine jusqu'au jusqu'au Languedoc-Roussillon et à la Corse. Sachant que le plus gros est passé du côté des côtes aquitaines, hein, même si ça souffle encore fort. Et c'est vraiment sur le Languedoc-Roussillon qu'on a actuellement les plus grosses.
Alors avant d'analyser la situation avec Gaël, je voudrais qu'on parte tout de suite dans l'Aude. Jean Brunel est avec nous en direct. Vous êtes le directeur de cabinet du conseil départemental de l'Aude. L'Aude, elle est frappée par une double vigilance. C'est orange pour les crues et les inondations, c'est rouge pour le vent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation au moment où l'on se parle ?
Oui, bonjour. Alors, au moment où on se parle, donc le vent est assez fort sur l'ensemble du département, mais va surtout monter en puissance sur les coups de 11h midi sur l'est du département, donc dans la région de Lézignan, Corbières et Narbonne, avec des rafales attendues à plus de 150 km/h. Vous le disiez, on est aussi en vigilance orange avec des débordements de cours d'eau à l'ouest du département, donc plutôt dans le Lauragais, la région entre Castelnaudary et Carcassonne, ce qui augure des routes coupées, inondées donc sur l'ouest, et des routes qui sont fermées depuis le milieu de la nuit en raison de chutes d'arbres, de chutes de branches et donc des interventions des agents routiers du département en cours à de nombreux endroits pour sécuriser les déplacements.
Vous avez tenté de sécuriser les déplacements. Quels sont les conseils que vous donnez à ceux qui nous écoutent et qui sont dans le coin ?
Les conseils que nous donnons sont les consignes de la préfecture. En vigilance rouge, c'est se mettre à l'abri et limiter les déplacements aux déplacements réellement impérieux, donc ne pas prendre la route et ne pas sortir même à pied en raison de la dangerosité de cet épisode météorologique lié au vent.
Ne pas prendre la route. Jean Brunel, justement, on va rester dans le coin puisque Laurent est maçon à Bizanet, juste à côté de Narbonne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, vous avez malgré tout pris la route vous ce matin?
Non, pas du tout. Je suis resté à la maison. De toute façon, un peu s'il pleut, donc on peut rien faire dehors.
Bon. Mais au moins, on est rassuré. Vous êtes resté chez vous. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Autour de nous, autour de la maison, ça souffle énormément. Ce qui avait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et puis après, de ce que j'ai pu voir et entendu sur les réseaux, il y a des arbres qui sont tombés sur notre secteur, qui sont en travers de route. Donc voilà. Et après, on a la pluie en plus qui se mêle avec le vent. Donc je pensais que ça va être un peu risqué au niveau des arbres et tout le reste, quoi.
Très très grande prudence donc effectivement. Merci beaucoup Laurent et Jean Brunel. Donc Jean Brunel qui est le directeur de cabinet du conseil départemental de l'Aude. Gaël Musquet, on sait également qu'il y a eu un mort ce matin très tôt, un chauffeur poids lourd qui a pris un arbre sur la route à Dax. Donc là pour le coup c'est les Landes. Gaël, cette tempête, Météo France l'a dit, peu fréquente. Au moment où l'on se parle, on voit bien qu'elle est d'une intensité rare. Hein.
Tout à fait. On est sur des records qui ont été battus. Quand on repense à ce qui s'est passé à 17 ans avec la tempête Klaus en 2009, on a effectivement des records en intensité qui ont été battus. Même si c'est normal d'avoir des tempêtes à cette période, on est dans la saison des tempêtes, de ces phénomènes dépressionnaires. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont classiques. En revanche, on est là sur non seulement une intensité sur les vents, mais une intensité aussi sur la pluviométrie et sur aussi la quantité d'occurrence de ces phénomènes qui frappent le territoire hexagonal. On a aussi...
Il y en a de plus en plus.
On a eu beaucoup, depuis l'automne, on a eu beaucoup de phénomènes dépressionnaires qui ont été, avec les influences que l'on a pu avoir, ce rail dépressionnaire, hein, donc c'est ces courants de jet qui sont dans l'atmosphère, qui vont en fait ramener ces dépressions sur nous avec de l'eau et du vent, là, comme on le vit avec Niels.
Alors, je parle évidemment sous le contrôle de Géraldine, mais ça fait presque un mois qu'il n'y a eu quasiment aucune journée sans pluie.
Oui, c'est pratiquement depuis Noël qu'on a ces phénomènes qui se succèdent, hein, effectivement, que ce soit la pluie, le vent également, mais essentiellement la pluie, effectivement, depuis Noël.
Les sols, ils sont saturés d'eau ?
Là, on a effectivement deux phénomènes qui sont, d'un côté, des grands balanciers, des grands mouvements. Quand on regarde le Morbihan, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, qui ont été des départements, encore il y a quelques mois, moins de six mois, étaient en vigilance sécheresse. Le Finistère, le Morbihan. Faut pas oublier d'où on vient. On était il y a quelques mois très inquiets pour ces départements parce qu'on avait de la sécheresse. Et là, on a un mouvement de balancier inverse, comme on a pu le connaître en 2023 sur le Nord et le Nord-Pas-de-Calais, où là, on a des phénomènes pluvieux extrêmement intenses. 2 jours sur 3, pratiquement, il a plu en Bretagne. Et effectivement, là, peu importe le territoire sur lequel on se situe, avec des pluviométries aussi importantes. D'un côté, évidemment, ça permet de renforcer les nappes phréatiques qui étaient très basses. Donc là, le BRGM, d'ailleurs, a soumis...
Est-ce que de ce point de vue-là, on peut tenter de voir un point positif dans ce moment qui vire au dramatique, hein, puisqu'il y a eu un mort ce matin à Dax. Est-ce que la pluie qui tombe énormément, malgré tout, va en profondeur? Et est-ce que ces départements qui étaient sous la sécheresse vont pouvoir souffler?
Oui, là, on a le BRGM qui vient de sortir sa carte de l'état de ces nappes phréatiques hier. Et donc, on a d'un côté un soulagement sur le Finistère, sur la Bretagne, sur ces territoires qui sont actuellement en vigilance. On a encore des inquiétudes sur les Bouches-du-Rhône, aussi sur le nord-est où les nappes sont encore déficitaires. Mais un des points positifs pour ces territoires, on s'en souvient de ce feu des Corbières qui a fortement impacté ces territoires cet été. Une des conséquences de ces sécheresses, c'est aussi ces feux malheureusement qu'on a l'été. Et donc là, on peut espérer que ces épisodes pluvieux nous permettront de traverser un été, un printemps plus
simple. Est-ce qu'on est en train de basculer dans une ère où la météo, c'est en permanence la crise?
Alors, on a effectivement un renforcement des phénomènes extrêmes. Alors, à la fois en termes de vent, d'intensité des sécheresses, intensité aussi de la pluviométrie, il faut savoir qu'un degré en plus dans l'atmosphère, c'est 7% en plus de d'humidité. Et donc, cette humidité, à un moment, il faut qu'elle retombe. Malheureusement, ce qui se passe pour nous en ce moment, c'est qu'elle est fréquente, trop fréquente et beaucoup trop intense. Et donc, il faut évidemment là adapter nos territoires, nos habitudes et écouter les consignes. Les systèmes d'alerte aujourd'hui nous permettent de nous mettre à l'abri. C'est vraiment la priorité en ce moment. Sécurité des personnes, évidemment des biens.
Effectivement, faire très attention, ne pas prendre la route. En tout cas, dans les départements en vigilance rouge. Éric, lui, nous appelle d'un département qui est en vigilance jaune, le Gard. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, je crois que vous êtes chauffeur poids lourd et vous-même actuellement bloqué sur l'autoroute. Hein,
voilà, on est parqué sur le bord de l'autoroute A9. Voilà, je pense que, comme je vous l'ai dit dans mon message, j'étais scandalisé parce que bon, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. L'arrêté préfectoral, je pense qu'il n'a pas été pris à 4h du matin. Ou quand bien même, il faudrait l'annoncer par l'intermédiaire des médias. Ça nous éviterait de rester comme ça au bord d'une route sans rien, sans... Voilà, donc...
Donc expliquez-nous ce qui s'est passé, Eric. Vous avez pris la route comme il était prévu de le faire. Vous avez quoi? Vous avez un poids lourd...
Un 14 tonnes, oui.
Un 14 tonnes, ok. Et donc du coup, Eric, là, au moment où on se parle, alors que vous étiez sur la route, vous avez eu instruction d'arrêter et de vous mettre sur une aire.
Les gendarmes, sans rien, voilà, nous ont demandé de nous parquer, même pas sur une aire, même pas, on est carrément sur la route, sur la voie de droite.
Ah, d'accord.
On est carrément bloqué à 5 cm entre chaque camion pour éviter qu'on s'en aille, et puis pour gagner de la place, pour optimiser, j'imagine.
Vous êtes exactement, Eric?
Je suis à 10 km de Nîmes, entre Arles et Nîmes, à 10 km de Nîmes.
Exactement. Et ils vous ont dit combien de temps ça allait durer?
Jusqu'à nouvel ordre. Donc on est au bord comme ça, sans information. Voilà, on a des camions frigo heureusement qui tournent, mais bon, il faut faire tourner un peu, il fait froid, c'est pas confortable, il y a rien, voilà.
Oui, vous auriez
simplement
mis que ce soit...
ça avait été annoncé, les entreprises, je pense qu'avec les moyens que nous avons, on peut envoyer un message à toutes les entreprises en disant à telle ou telle région interdiction de circuler pour les poids lourds et on part pas. Ou alors, on diffère ou on s'organise.
Eh ben, au moins, effectivement, avec votre témoignage, tous ceux qui sont dans la région le savent. Donc, désormais, sur l'autoroute A9, où vous êtes bloqué, donc, à 10 km de Nîmes. Et effectivement, cette question, ce point, à l'instant, je vous le disais, le chauffeur poids lourd sur une route de Dax qui est décédé par une chute d'arbre. Merci beaucoup, Gaël Musquet, météorologue spécialisé en prévention des risques majeurs. On revient évidemment dans le journal de 8h sur les toutes dernières informations. Je vous rappelle que ce sont exactement 850 000 foyers qui sont toujours privés d'électricité. 7h51, la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Un hôpital public lance un emprunt citoyen. Il demande aux Français de prêter 1 million d'euros pour se financer.
Et oui, ça nous dit la réalité des choses. L'État, c'est nous.
L'État, c'est nous exactement. Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h53 et vous êtes bien sur RMC. Et l'alternance, la droite, la gauche. Ce matin, c'est la voix de gauche. Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Les hôpitaux publics qui demandent aux Français de prêter. Ils lancent des emprunts citoyens. Le dernier en date, c'est celui de la Côte Basque qui cherche 1,5 million d'euros. Est-ce que c'est le symbole de l'état catastrophique de nos finances publiques?
En tout cas, c'est assez inédit. Même si ça fait 3 ans que ça existe, en gros, cette plateforme, et le but, c'est de proposer aux citoyens de contribuer à financer contre rémunération un certain nombre de projets publics, dont des hôpitaux. L'hôpital de Haguenau a financé l'installation de volets connectés, mais aussi un village, la Bastide de Lévis, qui a rénové la place centrale du village. Mais pour l'hôpital, le centre hospitalier de la Côte Basque, c'est un peu particulier. Ils demandent de financer leur trésorerie, c'est-à-dire l'argent dont ils ont besoin pour acheter des médicaments, en attendant de toucher l'argent de la sécurité sociale et des mutuelles. Donc là, quand même, on est un peu au bout de l'exercice.
C'est une sorte d'emprunt relais qu'on demande aux Français avant que l'État ne donne.
Exactement, parce que l'hôpital n'a pas les moyens de pouvoir sortir l'argent pour financer les médicaments. C'est quand même un peu problématique. Et il dit très clairement, les financements institutionnels interviennent selon un calendrier différé, ce qui est une façon polie de dire qu'ils n'ont pas l'argent quand ils en ont besoin, ce qui n'est pas très normal.
Est-ce que vous y voyez quand même une bonne nouvelle quelque part?
Alors, il y a une mauvaise nouvelle, ça on l'a compris, hein, que l'hôpital fasse appel à l'épargne pour la trésorerie, c'est problématique. Mais une bonne nouvelle, c'est que, je l'ai dit, ce n'est pas le premier projet, et la plateforme Willys, qui s'occupe de ce projet, a déjà financé plus de 3 millions d'euros de projets, et ils offrent même la possibilité aux entreprises de le faire via le mécénat. Donc on voit bien que ça marche, et peut-être aussi que ça marche parce que de faire le lien direct entre son argent et les projets qui sont financés, bah c'est intéressant. D'ailleurs, ça existe depuis un moment déjà pour les projets d'énergie renouvelable au niveau français, mais aussi au niveau européen. En France, c'est plus de 350 millions d'euros qui ont financé en 2024 des projets d'énergie renouvelable. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les habitants du territoire sont prioritaires. Donc on voit bien que ce lien entre son argent et ce qu'il finance est quelque chose d'important.
En fait, ça veut dire qu'on veut bien donner de l'argent, mais on veut savoir où ça va.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que on veut être partie prenante du projet. Et je trouve que les élus ou les porteurs de projets ont bien compris cette chose-là. Ça dit aussi que les Français sont prêts à participer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que
le public en fait.
Exactement.
Qui finance.
Exactement. Et donc évidemment, on l'a su il y a pas longtemps grâce à l'opération Duralex, et ça c'est vraiment très intéressant. Parce que Duralex a fait appel à l'ITA, qui depuis longtemps finance des entreprises à impact. Mais là, ils ont offert la possibilité à Duralex de lever l'épargne des Français. Et le succès a été dingue. Ils attendaient 7 millions, ils ont reçu 19 millions d'euros. Et il y a 21 000 personnes qui ont voulu participer. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent utiliser leur épargne, leur argent, pour peser sur leur environnement, pour soutenir des entreprises. Alors évidemment, ça interroge quand même sur l'État et ses outils, parce que là où les Français ont mobilisé des millions d'euros, la Banque publique d'investissement proposait à Duralex 750 000 euros. Donc ça montre les limites de l'État et de ses outils, et ça c'est un problème. Mais à l'inverse, ça montre la santé et l'envie des Français pour soutenir leur territoire et leurs entreprises.
N'oublions pas donc que l'État, c'est nous, c'est votre message
l'État,
aussi ce matin. Merci Cécile Duflo, la voix de gauche. Demain, 7h50, ce sera le débat, voix de droite, voix de gauche, sur RMC, comme tous les vendredis. Dans un instant, le journal de 8h, et à la une, c'est bien sûr la tempête Niels, chute d'arbres mortels dans les Landes. Un homme est mort à Dax, un chauffeur poids lourd sur la route. On y revient évidemment dès le début du journal de 8h et avec un point complet de la météo de Géraldine juste avant. Il y aura aussi l'économie dans un instant avec vous Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, au sommet européen de l'industrie, les patrons se disent très inquiets.
Mais oui, que fait l'Europe face à la Chine et aux États-Unis? Pas grand-chose, et pourtant, elle a des muscles, mais elle ne les montre pas.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57, restez bien avec nous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.